parole. Martin Kénéen.
Bienvenue à toutes et à tous. Avec le prix France Culture du roman des étudiants décerné cette semaine à Léonore de Recondo pour son roman Point Cardinal, la saison des prix littéraires touche à sa fin. Mais les choses sérieuses commencent pour les lectrices et les lecteurs et pour le Père Noël. Et quand on dit lecteur ici, rue des Écoles, on parle de jeunes lecteurs, ceux qui habitent parfois trop souvent les profondeurs des classements internationaux, ceux habitués d'ordinaire à Molière ou au Candide de Voltaire. Qu'en est-il de leur rapport à la littérature, et en particulier à la littérature contemporaine, celle en train de se faire et dont les auteurs ont parfois leur âge? Pour le savoir, Rue des Écoles met aujourd'hui à l'honneur deux initiatives singulières. Tout d'abord, ce sera les lectures du jeune Vepler qui mobilise des élèves de lycée professionnel lancés dans l'organisation d'un banquet littéraire. Puis, dans la seconde partie de notre émission, nous vous entraînerons dans la cuisine du prix France Culture du roman des étudiants avec l'une de ses nominées, la romancière Monica Sabolo, auteure du beau et douloureux Summer. Enfin, en guise d'épilogue à cette émission, nous retrouverons Sophie Bobert pour sa leçon de choses avec l'architecte et designer India Madhavi. Mais pour l'heure, entrons dans le lycée polyvalent Albert Demain, dédié au métier de l'hôtellerie, où ce qui se trame vous donnera, j'en suis sûr, le goût de la lecture. Mathieu Hippot, vous êtes professeur de lettres ici au lycée polyvalent Albert Demain. Et vous êtes un des artisans de ces lectures du jeune Vepler. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'entendre le jeu de mots qu'il y a avec le jeune Werther. Alors prenons-le au pied de la lettre. Le jeune Werther, ce sont des souffrances, ces lectures pour vos élèves. C'est une affaire de souffrance ?
Bah oui, c'est la première idée qui vient en tête par rapport à la lecture. On entend beaucoup parler de la difficulté de faire lire des jeunes. Les professeurs se tirent les cheveux des fois pour trouver des idées de lecture. Et quand Marie-Rose m'a parlé de l'envie de célébrer les 20 ans du prix Vepler avec un événement particulier...
Marie-Rose Garnery, libraire à la librairie des Abbesses.
Oui, créatrice du prix Vepler avec Michel Bessière. Elle m'a dit, il faut que tu fasses lire tes jeunes. Et j'ai trouvé que c'était une idée super de lier finalement leur milieu, le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, avec la littérature. Parce que ce sont pas des jeunes qui lisent facilement. Ils ont un rapport parfois compliqué, des mauvais souvenirs de collège avec le français. Et donc la lecture, c'est vrai que c'est une souffrance. C'est pas une souffrance romantique des blessures amoureuse, mais c'est une souffrance peut-être, je dirais, narcissique. Et donc, cette idée de dîner, c'était une façon de les valoriser. Et Marie-Rose m'a tout de suite dit, mais il faut faire quelque chose pour les mettre en valeur par rapport à leur talent, à leur savoir-faire. Et leur savoir-faire, c'est les gestes, ça passe par les gestes, par la technique. Donc, du coup, la cuisine, leur spécialité. Donc, je me suis dit, on va étudier les textes de livres et on va faire un dîner à travers ces livres-là. On va avoir des thèmes en cours de français et le prof de cuisine va prendre le relais et va élaborer des plats avec eux. Donc c'était vraiment un travail, un binôme en fait entre français, cuisine et art appliqué aussi. Ils ont dessiné et professeur de restauration, voilà.
Et ces quatre livres, alors quels sont-ils, Mathieu Hippot, ceux que vous avez choisis parmi les nominés, les candidats au prix Vepler ?
Alors j'ai fait le choix avec Marie-Rose, en fait, Guarnieri. On pouvait pas prendre 12 livres, c'était trop, parce que le prix Vepler, il y a 12 finalistes en septembre. Donc on a choisi 4 livres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 4 livres, qui sont donc Le Presbytère d'Ariane Monnier, Une chance folle d'Anne Godard, Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel et La fin de Mame Baby de Gal Octavia, ces 4 livres ont un rapport étroit ou lointain avec la cuisine. Ça, c'est incroyable. Maintenant, je lis toujours des livres en rapport, en essayant de voir les correspondances avec l'univers de la cuisine. Et les 4 ont vraiment des scènes qui parlent de la cuisine. Donc, ça peut être la cuisine, le malaise familial à travers une scène de repas. Ça peut être une scène chez Yannick Enel qui se passe chez Beaufinger, une scène de de malaise social où le personnage n'est pas à l'aise chez Bofinger. Et j'ai parlé de ça avec les élèves en leur disant, voilà, vous allez travailler dans des grands restaurants, parce qu'ils font des stages dans des grands restaurants gastronomiques. Et ben, faut savoir que les clients ne sont pas toujours, toujours à l'aise dans ces endroits où il y a des codes, où c'est très codifié. Et la fin de Mame Baby, c'est sur le rapport du plaisir et de la cuisine. Il y a une phrase belle de Gaël Octevet qui dit que la nourriture est une source intarissable de joie. Voilà, on a commencé cette phrase en cours.
Alors on est parti des souffrances du jeune Werther pour arriver aux joies du jeune Veppler. Grâce à vous, Mathieu Hippot, et à vos élèves, dans le cadre de ces lectures du jeune Veppler, et dans les souffrances du jeune Werther de Goethe, il est question du suicide. Est-ce que vous considérez que, par les temps qui courent, à un âge où on se cherche, parfois douloureusement, qu'on se cherche professionnellement ou qu'on se cherche tout court quand on est adolescent, la littérature, c'est un remède et ça apporte un peu de joie contre les angoisses de l'adolescence ?
C'est vrai, ce sont des jeunes en beaucoup, il y a beaucoup de jeunes en souffrance, hein, 16, ils ont entre 16 et 20 ans et c'est pas simple, on sent les problématiques et la littérature elle met le doigt sur des choses, comme ils n'ont pas toujours les mots pour expliquer, pour dire les choses, pour se confier, voilà. La littérature c'est un catalyseur, donc ça permet de, quand on choisit bien les extraits ou ils parlent, du coup ça les fait parler et ça les éclaire sur des situations de vie, des situations existentielles compliquées. Moi j'ai eu beaucoup de réactions sur le livre d'Ariane Monnier, Le Presbytère, qui parle d'un jeune médecin qui s'installe dans un presbytère, qui va faire subir, qui va se comporter comme un tortionnaire avec sa famille et avec ses enfants. Et ça les a beaucoup marqués, et ça les a renvoyés à leur rapport avec leurs parents, à leur éducation. Comment on éduque un enfant? Ça rappelle aussi l'école, les problématiques. Est-ce qu'on doit être sévère ou pas? Est-ce qu'avoir beaucoup de culture, c'est fondamental dans la vie pour être heureux ou réussir? Ça leur parle beaucoup. C'est pas parce qu'on peut avoir beaucoup de culture et être moralement quelqu'un de minable, en fait, de pas fiable. Donc voilà, ça les a beaucoup marqués, Le Presbytère. Et puis aussi, Tiens, ferme ta couronne, sur l'idée d'un personnage qui poursuit ses rêves, en fait, qui va aller au bout de son projet. On a expliqué la métaphore de la couronne. Voilà. Eux aussi, ils ont sans doute des rêves, ils sont au début de quelque chose, ils sont en devenir, et voilà, ça leur parle. Comment on réussit sa vie, c'est quoi réussir sa vie. Je vais vous montrer où ils travaillent, les cuisines qu'on appelle les cuisines d'application. C'est là où ils ont des TP, reçoivent des clients, des vrais clients, deux fois par semaine, le midi et le soir. Donc ils ont des chefs, un professeur chef, et ils apprennent la cuisine pendant 3 ans. Et ils obtiennent un bac pro à la fin, en 3 ans. Voilà. Alors, on va voir en cuisine, s'ils sont là.
Magdala de Beaulieu, vous êtes ici la chef et la professeure dans les cuisines du restaurant d'application du lycée Albert Demain. Qu'est-ce qui est en train de cuire, de mijoter sous nos yeux?
Alors là, vous avez en train de mijoter une joue de porc aux fruits de la passion. À côté, c'est une joue de porc au vin rouge. Et là, l'élève, il est en train de faire des multi-chips de légumes exotiques.
Et il paraît que pour toutes ces recettes, vous n'avez pas ouvert des livres de cuisine, mais de la littérature.
Oui, on a, en fin de compte, les élèves, on lit les 4 livres. Moi, j'en ai lu que 2 sur 4. Et ensuite, on a travaillé dessus ensemble. Et on a, par rapport aux livres, on a fait les menus. Il y a la crème brûlée de fenouil qui est inspirée d'une jeune fille qui a été brûlée. Il y a la joue de porc au vin rouge et au chocolat passion qui est inspirée aussi d'un livre, c'est Mame Baby. C'est ça, hein, Luc? Ensuite, il y a le macaron qui est inspiré par rapport à un livre aussi, tout ce qui était rocambolesque dans le livre, où il parle un petit peu de peinture et autres. Et il y a aussi le ceviche l'entrée qui fait penser à... C'est un consommé de volaille par rapport au fait du presbytère, le livre où le père est très strict avec les enfants, la lecture, l'alphabet, la musique. Donc tous les plats sont inspirés des livres. tout revient par rapport au livre. Il y a une note à chaque fois dans tous les plats, en fin de compte. À chaque poste, là, aujourd'hui, il y a 4 postes pour l'entrée, le poisson, la viande et le dessert. Ce sont les élèves qui ont travaillé sur ces livres et qui ont donné leur idée, qui font les plats ce soir.
Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? On dirait des lingots d'or.
Ce sont des crèmes brûlées faites à base de jaune d'œuf, des œufs entiers, de la purée de fenouil.
Et c'est un rapport donc avec l'un des livres que vous avez été obligé de lire par vos professeurs.
Tout ce qu'on a fait, c'est à partir des livres qu'on a lus.
Et alors, il y a une histoire de fenouil dans un des romans?
Pas forcément le fenouil, mais la partie brûlée qui concernait dans le livre la fille qui était brûlée sur la peau. Donc c'est pourquoi on a proposé la crème brûlée pour faire part de la partie brûlée. Donc du coup on a proposé une crème brûlée.
C'est un peu cruel, non?
Non, c'est pas cruel, ça fait pitié au contraire. Donc c'est pourquoi on a vraiment décidé de le mettre dans le menu.
Vous vous souvenez d'une phrase, d'une expression, peut-être d'un mot qui vous a marqué parmi tous les livres, tous les extraits que vous avez eu entre les mains?
Dans le presbytère, il est parlé de la famille du docteur qui a une fois battu sa femme sans le vouloir. Et là, c'est vraiment une partie qui touche vraiment. Parce qu'il l'a fait et après il a regretté.
Il nous faut des creuses.
Rien, ça. Des creuses.
Il nous faut des creuses, s'il te plaît. Les creuses,
ça ne se dit pas, ça, c'est pas moi qui a fait les assiettes, c'est pas français. Oh, do you prefer? I speak in English for you. Tu es en première année de bac pro, tu parles comme ça le français, toi? Tu veux que je t'apprenne?
Les garçons qui étaient responsables des assiettes, c'est qui? D'accord. Il nous faut les assiettes à mieux qu'il nous donne. Il faut 5, s'il vous plaît, pour l'assiette de Monsieur Charles. Pour la table de Monsieur Charles.
Amenez-moi ça, venez chercher ça. Dessert.
Merci.
Dessert, il y a encore une tournée. Vérifiez que vous avez 40 assiettes, s'il vous plaît. Et je vous préviens, les gars, je vérifie. Si je vérifie que ça ne va pas, je vous renvoie chez vos parents. Est-ce que c'est clair? Parce que depuis vendredi dernier, je suis dessus avec vous, je vous ai expliqué. Donc, on travaille aussi avec son cerveau en cuisine et en salle. On ne travaille pas qu'avec ses mains.
Julien, il paraît que dans le presbytère, le père de famille est très strict et Madame Beaulieu, elle est très stricte aussi en cuisine.
Oui.
Vous osez pas balancer votre prof?
Ouais. Enfin, c'est une bonne prof, mais... ouais, voilà, autoritaire.
Et vous surveillez les chips de légumes exotiques, oui, alors, avec un laser?
Ouais, c'est du navarette-mite. Et en fait, c'est pour vérifier la température pour pas que l'huile soit brûlée et qu'il y ait un goût de brûlé sur nos chips.
Et là, Jules, qu'est-ce que vous râpez?
Alors là, c'est du manioc qu'on va faire en chips aussi. Et on fait à la mandoline pour faire des fines tranches et que ça croustille bien.
Et du coup, vous avez dû lire, entre toutes les heures de cours et les travaux pratiques d'application en cuisine, vous avez dû lire les 4 romans du Privé Plaire?
Exactement, ouais. Et du coup, moi, j'ai choisi de Man Baby parce que je trouvais que c'était une histoire très intéressante.
Vous pourriez me la résumer?
C'est 4 filles qui sont dans un quartier, qui se séparent. Une est dans l'alcoolisme, l'autre adore le chocolat. Et après, je sais plus exactement.
On en est où, les chips?
Là, ça avance bien, hein, ça avance bien. On a les chips de patates douces non colorées, et après, il y a le manioc. Après, on a fini. De la béchamel, et après on aura fini. Ah non, il y a le gratin de Christophine,
le manioc, hein.
Manioc. Et, chapelure et gruyère.
Ouais.
Et après, c'est bon.
Je peux monter la sauce, hein. Pour monter la sauce.
Ouais, et faire fondre le chocolat après aussi.
C'est vous le chef en second ce soir, Jules?
Il y a un seul chef ici, c'est notre prof, c'est tout.
Et vous, Julien, le roman qui vous a le plus saisi dans les quatre que vous avez dû lire pour préparer cette soirée, c'est lequel?
Bah, c'était aussi le Main Maybe. Enfin, je ne l'ai pas vraiment lu, le livre. Et donc...
Alors vous avez triché sur un camarade, vous avez cherché sur Google, comment ça s'est passé?
Non, même pas, c'est juste on avait parlé en cours, donc voilà.
Mais qu'est-ce que vous lisez d'ordinaire si c'est pas forcément de la littérature contemporaine?
Je lis pas forcément, et voilà.
Et tu m'appelles Victor aussi, s'il te plaît. Victor, la pâte à Cressini pour les notes de musique. T'en es où sur le consommé? Il est en train de clarifier? Ok.
Vous êtes à la plonge?
Oui, pour l'instant je suis à la plonge, mais on se relaie petit à petit pour faire en sorte que ça stagne pas.
Vous n'avez pas été puni parce que vous n'aviez pas fait toutes vos lectures à la maison?
Ah non, non, du tout, du tout, du tout, surtout je suis pas un très grand lecteur, mais non, non.
Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir malgré tout de vos lectures pour cette soirée très particulière, Victor?
Ce que j'ai pu retenir, c'est surtout qu'on peut confectionner des plats en fonction de livres. Et on peut voir que grâce à ces livres, on découvre de nouvelles technicités de travail qu'on n'a pas encore explorées sur le plan scolaire. Et je trouve ça assez avantageux sur ça. Ça peut que nous enrichir, voilà. Ça peut que nous enrichir et que être bénéfique pour notre cursus de bac professionnel, quoi.
Alors ce soir, on parle de lecture.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut lire quand on est élève en bac pro restauration ici au lycée Albert Demain, à part de la littérature contemporaine? Quelles sont les lectures qui sont un peu nécessaires, que vous recommandez ou que vous imposez à vos élèves?
À mes élèves, je leur impose rien à mes élèves. Je leur dis juste qu'il faut s'instruire au niveau culinaire, mais aussi au niveau littérature et enseignement général. Il faut être très bon en langue. Les langues étrangères, c'est très important. Donc, je leur demande de lire beaucoup parce que moi, déjà, j'aime lire. Je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Je ne suis pas du tout télé, ni leurs réseaux sociaux, là, Facebook. Bon, je suis à l'ancienne, hein. Mais je leur demande de lire et de se renseigner aussi du monde de la restauration, comment ça évolue. La cuisine évolue, l'hôtellerie évolue. Donc il faut savoir ne pas être juste cuisinier dans sa tête. Il faut aussi connaître toutes les choses qui concernent la salle, l'événement au niveau du monde hôtelier.
Et quelles sont les lectures alors qui vous ont marqué si vous êtes une lectrice, Madame Beaulieu?
Madame de Beaulieu.
Madame de Beaulieu, pardon.
Ouais, je tiens à mon de, mon père aussi.
C'est la princesse de Clèves?
Non, je tiens à mon de et mon père aussi. J'arrive. Plein de lectures. Mais là, vous me perturbez. Il faut que je travaille avec les jeunes. Il leur reste qu'une heure avant d'être en place.
Ah, monsieur, Ah oui. Ah, il y a France Culture.
C'est pas très grave. Je vous présente les élèves qui ont des livres en cadeau et qui ont lu les 4 livres. Et voilà, c'était sur une base de motivation, ils se sont inscrits au club de lecture et ils vont ce soir ils vont lire leur compte-rendu de lecture, leurs sentiments, d'une façon voilà, spontanée, enfin ils ont travaillé un peu sur leur texte, mais voilà, ils sont aussi pour une rencontre avec la littérature contemporaine.
Clémentine, Emma. Tac. Pardon. Clémentine, Étienne et Nolwenn. Donc, on commence avec Marty. Ensuite, on écoutera Diane, Clémentine, Apolline. Emilia et Nolwenn vont lire après que vous aurez parlé, d'accord ? Ensuite, donc vous parlerez d'une chance folle. Ensuite, on parle de la fin de Mam Baby avec Augustin et Étienne et Elina Lee. Ok ?
Alors, on va appeler Marie-Rose peut-être qui veut dire un petit mot. Et Michel Bessière, les deux créateurs du Privé Plaire.
Un tout petit mot, hein. Je pensais qu'il était important pour nous, pour moi, pour mon métier, que vous soyez pas, que pendant que vous étiez encore avec des enseignants comme vous les avez là, vous puissiez être initié à la littérature contemporaine, vous puissiez entendre parler de ce qu'est un prix littéraire, qui fait partie de la culture et de l'histoire de notre pays. Je voulais que vous essayiez de comprendre et de regarder les livres autrement. On voulait vous donner tout ce que nous avons reçu et qu'on nous a offert. À l'école, moi je l'ai reçu par des éditeurs, je l'ai reçu par des auteurs, alors tout ce monde-là, aujourd'hui je me suis dit, je ne vais pas le garder pour moi, j'ai envie de le dispenser pour vous, et vous prendrez dans tout cela ce que vous voulez. Donc on va faire beaucoup de choses ensemble pendant une année, on va faire une balade dans Saint-Germain, où je vous présenterai les cafés littéraires, les maisons d'écrivains, les maisons d'édition, on va essayer de vous emmener aussi au Salon du Livre. On va essayer de vous faire rencontrer aussi tous les métiers du livre à travers une maison d'édition. On va vous offrir des livres, mais on va essayer aussi de vous donner, voilà, changer votre regard et votre rapport à la littérature et au livre. Donc voilà, et que ce soit surtout un plaisir. Mon plaisir, c'était de vous inviter à la soirée Les Plaires, parce que Michel nous reçoit, comme vous le savez, généreusement. Mais je voulais aussi que vous puissiez comme ça passer une année et que vous gardiez peut-être de cette année un souvenir pour votre vie d'homme et de femme quand vous occuperez vos métiers, quand vous entendrez parler Goncourt, Renaudot. Je sais que vous saurez tout cela, d'où ça vient, comment ça se pense, comment ça se vit, parce que vous y avez participé. Il ne faut jamais penser qu'on est assigné à un endroit, qu'on est professionnel, donc on a nous, le monde littéraire, ce n'est pas pour nous, le monde de... Voilà, je veux vous dire que le monde vous est ouvert. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec vos deux enseignants, je voulais que vous sachiez que le monde vous est ouvert et qu'on vous attend, et que c'est vous qui ferez le monde de demain. Donc voilà ce pourquoi, aujourd'hui, on a choisi de vous accompagner pendant un an, et de ne pas vous lâcher. Voilà. Merci beaucoup, Thomas.
Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Je vais être franc avec vous ce soir. Lorsque Mathieu Hippo est venu dans ma classe, nous présentant ce qu'étaient les lectures du jeune Vepler, j'étais pas plus emballé que ça. Mais la perspective de manquer des cours m'a convaincu. Bien qu'au final, on ne manque aucun cours et on finit même plus tard. Mais cela, je vous le promets, vaut largement le coup. Lors de nombreuses réunions, nous avons pu échanger, débattre, discuter, comprendre et analyser. En d'autres termes, vivre le livre. Les lectures du jeune Vepler m'ont permis d'avoir une certaine rigueur dans la lecture. Rigueur que je n'avais pas. Bien qu'au final, je n'ai lu que 3 livres sur 4, mais vu que vous êtes là, je ne vais pas dire celui que je n'ai pas lu pour éviter de me compromettre. C'est pourquoi je vais laisser la parole à mes camarades qui vont vous parler des livres qu'ils ont lus, qu'ils ont touchés, et pour certains même émus. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère pouvoir discuter avec vous pendant le cocktail. Merci à vous. Bonne soirée, du coup.
Une chance folle a su faire émerger des sentiments, des sensations, des émotions fortes durant notre lecture. Notre entrée dans l'histoire a été tourmentée par cette envie d'en savoir plus sur le personnage principal et de la joindre dans son aventure. Anne Godard a su nous toucher à travers Magda ou encore Marc. La maladie, les relations familiales, la crise d'adolescence et l'amour sont des choses que nous pouvons tous rencontrer à des dosages différents. C'est quoi là ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est à travers ces phrases que je suis devenue Magda un court instant, que je me suis reconnue. Ce roman ne proclame pas une lecture agréable où le bonheur et le bien-être règnent. Pourtant, c'est celui qui nous a le plus marqué. Une chance folle repose désormais dans ma bibliothèque, aux côtés des livres qui m'ont fait grandir.
Merci aux proviseurs, aux professeurs et aux élèves du lycée Albert Demain et du lycée Le Rebours pour leur accueil et leur mise en appétit et longue vie aux lectures du jeune Vepler. Vous écoutez France Culture, vous êtes bel et bien rue des Écoles qui s'intéresse cette semaine aux livres dont les jeunes sont les héros. À suivre, la cuisine du prix France Culture Télérama du roman des étudiants avec la romancière Monica Sabolo.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time.
When I woke up, the sun was shining in my eyes.
Sorte d'aboutissement de la saison des prix littéraires, le prix France Culture Télérama du roman des étudiants vient d'être remis. Un prix particulier en ce qu'il implique un engagement physique de la part de ces nominés qui sont allés se frotter à leurs jeunes lecteurs et qui révèlent, ce faisant, s'il en était encore besoin, que les écrivains sont des hommes et des femmes d'action. La preuve avec Monica Sabolo.
Summer wine.
Les rencontres avec les étudiants et avec les lycéens, ça c'était dans le cadre du concours des lycéens, parce qu'il y avait les deux, étaient vraiment les choses les plus incroyables et les plus émouvantes que j'ai vécues à cette rentrée. Je l'oublierai vraiment jamais. Alors déjà, je pensais que c'était un texte qui n'était pas pour eux, même s'il traite de l'adolescence, il est quand même... assez en boucle, avec beaucoup d'images, des phrases un peu poétiques. Et je pensais que ça allait les ennuyer. Et j'étais extrêmement étonnée de l'adhésion, voire même la ferveur avec laquelle ils m'ont parlé de mon texte. Et des questions très précises, hein, parfois plus fines et plus aiguës que toutes celles que les adultes, les journalistes ou même des lecteurs avaient pu me poser.
Rappelons que Summer, c'est le nom de cette jeune fille qui a disparu l'été de ses 19 ans au cours d'un pique-nique dans la présence de son frère qui avait 14 ans à l'époque et 24 ans et 13 jours après, il se lance dans une enquête à la recherche de cette sœur et des circonstances de sa disparition qui n'a jamais été élucidée. Qu'est-ce qu'ils ont su élucider, donc, ces jeunes lecteurs? Vous dites mieux encore que les critiques. Quelles questions vous ont-ils posées?
Effectivement, dans la disparition de cette jeune fille, il y a le fait qu'on n'en parle plus jamais. Il y a une sorte de silence qui s'installe autour d'elle. Elle était, au moment de sa disparition, elle avait mené une vie qui pouvait faire légèrement scandale dans la bonne société suisse dans laquelle elle évoluait. Et l'une des questions qui m'a le plus touchée, c'est quand une adolescente m'a dit « Mais est-ce que ce livre n'est pas, en fait, un propos sur la violence faite aux jeunes filles ?» Le fait que quoi qu'elles fassent, elles sont considérées comme coupables. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'effectivement c'est le propos, mais qui peut être, qui semble dissimulé. Et elle me disait qu'elle trouvait que cela faisait vraiment écho à tout ce qui se passait aujourd'hui, avec toute cette campagne MeToo, de toutes ces femmes qui se mettent à parler sur ce qu'elles ont subi. Et de voir qu'une jeune fille, si jeune, déjà avoir mis exactement le doigt sur ce qui, moi, avait pu parfois me désarçonner, et voire même parfois me blesser, mais presque, parce que personne n'avait semblé voir cela dans le livre. C'est un exemple parmi d'autres. Ils m'ont posé des questions également sur la poésie, par exemple, très précises, en me disant « Mais il y a beaucoup d'évocations de la jeune fille à travers l'image de la biche ou du cygne. Qu'est-ce que cela signifie ?» Des choses comme ça qui font écho à une lecture incroyablement attentive.
Cette violence faite aux jeunes filles, elle était aussi présente dans votre précédent roman, Grand Montana. Et je me demande si Monica Sabolo, quand on est jeune lectrice, jeune lecteur, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, quand on est étudiante ou étudiant, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche dans la littérature? Une prise, une entrée, des lumières, fussent-elles crues, sur la violence du sexe, que ce soit de l'identité sexuelle que l'on cherche ou de la rencontre avec l'autre sexe?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'une sorte de recherche très vive sur des émotions et des pulsions essentielles. Sa place dans le monde, le sens de l'existence, une étrangeté au monde, qui est le cas de mon héros, auquel il s'identifiait beaucoup, et le fait qu'il s'en sorte, je sentais que ça leur donnait un peu du courage. Il y avait également cette ambivalence avec cette envie très forte de vivre et cette envie de tout faire tout en ne pouvant finalement rien faire, et également l'ambivalence d'une attraction très puissante, une soif de vivre et en même temps une certaine compréhension de la morbidité. Et ces choses-là qui, je pense, effectivement sont assez présentes dans le texte, me semble-t-il, leur parlaient.
Et vous n'en faites pas mystère, Monica Sabolo, à votre façon, vous n'êtes jamais remise d'avoir été un jour adolescente.
Ça
vous travaille de livre en livre. Est-ce que c'est ce que vous recherchez justement, précisément, et peut-être dans quelle mesure il y a quelque chose d'étonnant à proposer à des lectrices, à des lecteurs qui ont cet âge-là, vos recherches personnelles, intimes, pour retrouver cet état, ces sensations qui vous habitaient quand vous étiez adolescente?
Alors, effectivement, ça m'a beaucoup marqué, mais probablement parce que je ne l'ai pas vécu. J'avais l'impression que les autres vivaient. Je les regardais faire des conneries, par exemple, en moi en étant très sage et en ayant l'impression d'être un peu faite de fumée. Et c'est un âge aussi du mythe, de la projection fantasmagorique sur l'autre. Et la fantasmagorie et les fantômes sont des thèmes qui me plaisent. Maintenant, sincèrement, je ne pensais pas écrire pour eux. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre de, je sais pas, le fait qu'ils me disent qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression que ça avait été écrit par un adolescent, en plus comme je mettais dans la peau d'un garçon, c'était une sorte de double challenge. Je sais pas, ça a apporté une sorte de joie et ça m'a sûrement reconnecté à un âge que finalement je n'avais pas complètement vécu.
En France, les adolescentes, les adolescents ont droit à Molière, ont droit à Voltaire, dans les lectures un peu obligées pour parfaire leur éducation et pour les examens. Qu'est-ce que vous, vous lisiez, peut-être non pas lycéenne, mais étudiante? Est-ce que vous aviez affaire déjà à la littérature contemporaine?
Oui, alors moi j'ai eu un choc littéraire, effectivement, après les Antigone et compagnie, où la littérature c'est des gens morts, et voire qui s'expriment de façon absolument pas naturelle pour soi, qui vous tiennent à distance. Moi j'ai eu un choc en fait en découvrant Stephen King. Moi, je suis rentrée par là. Donc ça, c'était adolescente. Je sais pas, il m'a saisie par... Justement, peut-être parce qu'il y a cette espèce de mélange entre vie, mort, étrange, mystère. Toutes des choses qui, à cet âge-là, semblent assez naturelles et familières. On vit avec. Ensuite, j'ai eu... c'est la littérature sud-américaine qui m'a vraiment fait entrer complètement en passion avec la littérature. Les Gabriel Garcia Marquez, par exemple. Et j'ai commencé là à aller dans les librairies, à me faire conseiller par les libraires et à découvrir un monde qui me semblait ahurissant, de modernité, de choses un peu choquantes, mais qui vont avec ce que vous pensez. Et justement, c'est de trouver des amis dans la littérature.
Vous parlez de Stephen King, Monica Sabolo. Il se trouve que son interview au magazine Playboy vient d'être réédité aux éditions du Seuil en français, avec toutes les grandes interviews d'écrivains qui avaient été données à ce magazine qui se piquait aussi de littérature. Et Stephen King, il révèle qu'il a toujours écrit, et en particulier à ses débuts, avec la rage qu'il avait en lui. Et d'où son idée d'inventer des personnages qui allaient désinguer tout le monde dans la petite ville où il vivait. Vous écrivez avec quoi?
Alors, c'est pas mal la rage. Moi, c'est un moteur qui fonctionne extrêmement bien avec moi. Je dirais l'accablement et la rage, le mélange des deux. C'est mon meilleur état pour me mettre à écrire. Mais en revanche, je me souviens que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des fables quand j'avais genre 9-10 ans. Et alors là, c'était des fables très cruelles, avec mais des fins gore, mais des fins gore sur des qui concernaient des animaux. Il y avait le homard et la langouste, la cigarette et le cendrier. Bon, tout ça était terrible, mais donnait une vraie morale sur le monde. Mais surtout, ce qui était fou, c'était que j'étais extrêmement satisfaite de ce que je faisais parce que je me donnais des notes. Et j'ai donc conservé ce carnet et je me mettais des bâtons, le maximum étant 5 bâtons, et toutes mes fables comptaient 4 ou 5 bâtons. Donc malheureusement, ça, j'ai totalement perdu ça. Mais l'envie de dézinguer de Stephen King, elle m'est familière.
Vous n'avez pas perdu, en revanche, le goût des animaux morts? Vous pouvez nous décrire ce qu'on trouve dans votre salon, puisque vous nous recevez chez vous, Monica Sabolo?
Alors, j'ai deux compagnons. Nous avons là, à droite, Lucie, qui est un héron. Et à gauche, nous avons Classe, qui est un jeune renard, qui fait très très peur à mes enfants, je dois le dire.
Deux créatures empaillées, donc.
Oui, j'adore les animaux, mais j'adore le sauvage. J'adore la nature, et comme c'était compliqué d'avoir un renard vivant, et un héron vivant, voilà.
À l'occasion de ce prix France Culture des étudiants, on parle de lecture, mais aussi d'écriture. Donc, avec vous, Monica Sabolo, vous dites que enfant, vous mettiez des notes, vous étiez votre propre professeur de lettres quand vous écriviez vos fables. Qu'est-ce que vous pensez des filières à l'américaine de creative writing, d'apprentissage d'art de l'écriture qui se développe, en particulier aujourd'hui dans les universités françaises?
Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense que l'on peut tout à fait écrire et se construire un art d'écrire tout seul, parce que je crois vraiment que c'est ce qui est merveilleux avec l'écriture. Mais c'est ce que je leur disais d'ailleurs aux étudiants. Je leur disais, mais écrivez, mais parce que c'est une façon de reprendre la main sur la vie. C'est-à-dire que vous êtes votre propre maître, vous êtes en lutte contre vous-même, pas en proie à l'injustice, pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il doit faire, pas ce sentiment d'être jugé ou incompris, c'est toute cette difficulté qu'on peut avoir, pas forcément, parce qu'il y a des profs merveilleux. Je pense que beaucoup d'entre nous sont marqués par un prof de français qui leur aura fait découvrir une certaine magie, un autre monde, par la passion avec laquelle il l'évoque. Mais l'écriture, pour moi, publiée ou non, c'est pas le problème. C'est une façon de transformer n'importe quoi. Justement, ce qui vous enrage, ce qui rend malheureux, les chagrins, les coups durs, évidemment les belles choses aussi, mais c'est comme une sorte de machine à café ou un truc d'alchimiste. Avec ça, avec les mots, avec la langue, vous pouvez le transformer en quelque chose de beau. Et également, plus on travaille, plus on progresse. C'est vraiment gratifiant. En fait, c'est comme faire une petite... comme faire du crochet. C'est des toutes petites choses, mais qui, au fur et à mesure, finissent par faire une tenture murale. Quant au creative writing, pour revenir à ça, moi, je pense que, vu ce que font les Américains, vu le sens du romanesque, de la construction, du souffle de leur littérature, et ils font beaucoup ça, et je trouve que ça a l'air de fonctionner extrêmement bien. Donc, pourquoi pas, effectivement, travailler la technique pour se donner toutes les armes pour réussir à construire une intrigue.
Et votre professeur de lettres, alors, qui a compté plus que les autres?
Ah oui, j'en ai une en troisième. Bah, elle m'a tout... Ça a commencé comme ça. Je me souviens, on a étudié Tristan et Iseut, et on en a parlé, je crois, pendant 6 mois. Toute la symbolique... En plus, j'étais d'un romantisme échevelé, donc...
Ça ne vous a pas quitté, d'ailleurs. Si on lit Summer...
Ouais, mais en fait, je suis restée un peu bloquée, quoi. Je suis restée bloquée, effectivement, à cet âge-là, je crois. D'une certaine façon.
Mais quelles études avez-vous faites, Monica Sabolo? On sait que vous êtes née à Milan, que vous avez grandi sur les rives du lac Léman, à Genève. Et ensuite, vous êtes venue à Paris, je crois, étudier.
J'ai fait mes études à Genève jusqu'au bout. J'ai fait des études de relations internationales qui étaient passionnantes et qui ne m'ont jamais servi. Je voulais écrire depuis toujours, mais ça me semblait... j'avais perdu mon assurance du temps des bâtons. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me l'autoriser.
Et vous rêviez à quoi, alors, étudiante? À quelle carrière? Puisque ensuite, vous avez œuvré dans le journalisme, à la fois le journalisme féminin, la mode, Grazia.
En fait, je rêvais d'être océanographe. Je voulais être écrivain et océanographe. Et j'ai travaillé dans des projets d'environnement à la fin de mes études. J'ai compté des tortues luttes en Guyane pour le WWF. J'ai remis des gibbons dans la forêt en Thaïlande. Conduit même des bateaux au Québec pour étudier les baleines. Et sur un de ces projets, j'ai rencontré quelqu'un qui venait voir le directeur du projet et qui lançait un magazine qui s'appelait Mer et Océan. Il m'a dit « On cherche des jeunes journalistes ». J'ai dit « Ok ». Et j'ai commencé vraiment complètement par hasard. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans.
Il y avait déjà cet élément aquatique qui vous poursuit. Dans Summer, on est vraiment sur et sous l'eau. On est entre deux eaux comme ça pendant tout le récit, les réminiscences, les souvenirs et cette enquête que mène le narrateur à la poursuite de sa sœur disparue près de 25 ans plus tôt. C'est aussi l'état dans lequel vous met la lecture, ce sentiment aquatique, ou peut-être même l'écriture?
Les deux, effectivement, c'est un sentiment aquatique, c'est un sentiment de silence et en même temps de quelque chose d'extrêmement profond, un état de liberté également. En plus, j'aime beaucoup l'eau, et surtout l'eau du lac, parce que l'eau du lac, c'est une eau stagnante, un peu inquiétante. On a peur d'aller nager dans un lac, on y va avec beaucoup plus d'appréhension que dans la mer. Et en même temps, quelquefois, l'eau est vert lagon, elle est scintillante, elle est vivante. Donc justement, ce mélange entre douceur, être porté, mais être également secoué, ou même une eau menaçante, je me sens très bien. Et puis je pense que l'eau, dans Summer, c'est également le reflet de l'inconscient, et de tout ce qu'il peut y avoir de caché à l'intérieur de nous, du personnage, l'inconscient de Benjamin, le héros.
À propos de votre inconscient, vous dites que c'était au contraire conscient, cette volonté de devenir une femme de lettres. Il se trouve que vous avez reçu en 2013 le prix de Flore, vous avez reçu en 2015 le grand prix de la Société des gens de lettres pour Cran Montana, votre précédent roman. Qu'est-ce que ça fait de devenir une... faire partie de ces gens de lettres? C'est aussi une carrière, c'est un objectif professionnel?
Alors, je ne pourrais pas le dire comme ça, parce que c'est tellement plutôt de l'ordre de l'enfantin pour moi. C'est plutôt vraiment les rêves d'enfant. Moi, quand j'étais à Genève et que j'imaginais Paris, je pensais que tout le monde était hyper brillant, ultra littéraire. Et l'idée d'un prix, c'était même pas envisageable. Donc, oui, c'est, franchement, c'est une émotion presque de petite fille ou d'adolescente, justement. Et là, cette année, d'avoir été sélectionnée sur la liste du Goncourt, hein, c'était un truc de dingue. C'était vraiment, mais... c'était comme si je l'avais eu.
Vous n'avez pas eu le Goncourt cette année. Vous n'avez pas non plus eu le prix France Culture des étudiants. Est-ce que vous pensez, comme Thomas Bernard, qui a écrit son fameux mépris littéraire, que les prix, en tout cas quand ils ne vous sont pas décernés, ne reviennent qu'à des trous du cul?
Ah mais...
Je cite Thomas Bernard.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens que j'aime qui ont été... récompensé cette année, mais je pense que malheureusement je ne vais plus pouvoir avoir la moindre relation avec eux désormais. Donc oui, ça, j'adore cette phrase en tout cas.
Thomas Bernard de témoigner aussi du fait que les gens autour de lui pensent toujours qu'il a reçu les prix pour lesquels il était en lice, même quand ils lui ont échappé. Ça vous arrive aussi qu'on vous félicite pour le Goncourt des lycéens et bientôt pour le prix France Culture des étudiants?
Alors, on m'a pas félicité, on me dit beaucoup, j'étais sûre que ce serait vous. C'est-à-dire, on remue énormément le couteau dans la plaie, ça on me le dit tout le temps. Et on me dit également, on me félicite en revanche beaucoup pour des livres que je n'ai pas écrits. Ça, on me confond, mais alors avec n'importe qui. Même, ça m'est même arrivé avec un homme une fois, enfin un livre qu'il y avait. Donc voilà, ça on me dit beaucoup. Mais en général, je dis juste merci.
Vous dites qu'il arrive que vos lectrices, vos lecteurs ou ceux qui ne vous ont pas encore lu remuent le couteau dans la plaie. Il semble que quand on lit Summer, dès les premières pages d'ailleurs, il y a cette chair rose des poissons, ces poissons écorchés. C'est ça, être écrivain, être écrivaine, c'est écrire avec sa chair, c'est s'écorcher, c'est une souffrance?
Alors, je ne sais pas si c'est s'écorcher. Je dirais que c'est une aventure physique. Ça c'est vrai. J'ai l'impression d'écrire vraiment presque comme si c'est presque une discipline sportive. C'est un investissement entier. Après, c'est difficile parce que parfois on se bat contre le texte. Mais globalement, je ne dirais pas que c'est une souffrance. C'est plutôt, je vous dis, c'est plutôt un élément de transformation, de transcendance. Moi, j'écris parfois dans un état presque de transe. C'est-à-dire une sorte de lâcher prise pour essayer justement de faire sortir la musique ou quelque chose d'étonnant dans la sensation. Ça, c'est un état que je trouve délicieux. D'ailleurs, il y a des étudiants, comme il y a une scène dans le livre où Benjamin prend du LSD, des étudiants qui m'ont demandé si j'écrivais moi-même en prenant différents produits illicites. J'ai dit, bah, évidemment. Ils m'ont fait, non. J'ai dit, bah, tout cela est du vécu. Et après, je leur ai dit que non, bien entendu, qu'au contraire, hein, dès que j'écrivais en ayant bu, par exemple, en général, je trouve ça fantastique, et que je suis très, très enthousiaste, en me disant, c'est des pages magnifiques le lendemain, je suis complètement atterrée parce que c'est pas bon. Je pense que l'écriture, justement, elle se doit se faire dans une certaine sobriété. Et c'était également ce que je leur disais. Je leur disais, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans la peau, dans un état de quelqu'un ou de quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mais à partir du moment où on rentre dans un état de sensibilité, on peut s'approprier également cela et on peut le traverser à partir du moment où soi-même on y croit.
Et pour revenir à Stephen King que nous mentionnions tout à l'heure, lui, il a reconnu avoir pris pas mal de LSD, de peyote, de mescal. C'est des choses que vous n'êtes jamais autorisées, Monica Sabolo?
Non, mais ça peut venir. Hein. C'est assez tentant. Comme je suis encore au début de mon adolescence, je pense que je vais partir en vrille très prochainement.
Mais alors, quelles expériences étudiantes vous aimeriez vous autoriser, enfin?
J'aimerais bien danser beaucoup aussi. J'ai jamais osé, j'étais hyper timide. Donc ce genre de truc. Enfin, beaucoup de choses un peu dangereuses. Enfin, danser n'étant pas dangereux, mais danser dans un certain état, voilà.
Why don't you come out? The gods have gone, they forgot their purpose and shuffled along. So come feel the sun. Why don't you come out? The dogs lie sleeping, their limbs they twitch with the chase and their dreams. So come feel the sun. Is the need that you feel to come feel the sun.
Le roman de Monica Sabolo, Summer, est publié chez J.C. Lattès. Quant au prix France Culture Télérama du roman des étudiants, il a été décerné cette année à Léonore de Recondo pour Point Cardinal, publié chez Sabine Vespizer. Mais cette émission en forme de livre n'est pas encore finie et son heureux dénouement est laissé à la sagacité de notre reporter Sophie Bobert qui ramène à l'école l'architecte et designer India Madhavi.
India Madhavi, je vous retrouve ici à Paris, dans votre galerie, dans votre studio, tout proche du bâtiment de l'éducation nationale. Mais vous n'êtes pas née ici à Paris. Vous êtes née à Téhéran, d'une mère égyptienne et d'un père iranien. Et je crois que vous avez beaucoup voyagé lorsque vous étiez enfant.
Oui, effectivement, j'ai quitté l'Iran quand j'avais un an et demi. Et on est parti s'installer aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts. Et puis j'ai habité avec ma famille et mes parents jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai des souvenirs de la maternelle américaine qui, je pense, était une école bilingue. Bilingue français-anglais, mais pas beaucoup de souvenirs de la langue française à cette époque-là. En revanche, je me souviens de... des couleurs très fortement. Je me souviens de mon lunchbox, des sandwichs peanut butter et du strawberry milk que ma mère me préparait pour aller à l'école.
Oui, vous avez déclaré récemment, lors d'une exposition consacrée à la couleur, justement, et qui a eu lieu à Bordeaux, « J'ai ouvert les yeux sur du technicolor, des voitures au milkshake à la fraise. L'Amérique des années 60 était très colorée. C'était une sorte de paradis d'enfant. »
Oui, parce que c'est vrai que, en fait, je remets ça dans le contexte de mon histoire personnelle, parce que à la fin, donc j'ai des souvenirs très, très colorés des États-Unis. Et puis, quand j'ai eu 6 ans, on est parti en Allemagne. Et tout d'un coup, pendant ce trajet, enfin, en arrivant en Allemagne, mes souvenirs se sont transformés tous en noir et blanc. Et tout d'un coup, ma mémoire, les images que j'ai de l'Allemagne, tout est noir et blanc. Et finalement, au bout d'un an, mes parents ont décidé de déménager dans le sud de la France. Donc toutes les références très brouillées, jusqu'à ce que mon père décide de nous mettre dans une école très particulière qui s'appelle l'école Freinet, qui se trouve à Vence. Et il nous met en pension. Et là, je crois que j'ai à la fois les souvenirs les plus forts d'éducation qui ont marqué quasiment toute ma vie de professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, si j'exerce mon métier tel que je l'exerce aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait l'école Freinet. Donc l'école, j'y suis retournée il n'y a pas si longtemps, et vraiment, elle est à l'échelle de l'enfant. Hein? Donc ce sont des petits bâtiments isolés dans un très grand terrain, parce que je pensais être un très grand terrain, mais en fait c'est tout petit. Il y a une forêt, il y avait la grotte de Papa Freinet, il y avait le théâtre, il y avait en gros 3-4 bâtiments isolés dans ce grand terrain, des dortoirs. Et il y avait un bassin, on appelait la piscine. Un poulailler, un clapier. Je cultivais mon jardin. J'avais adopté à un moment donné un lapin et un petit poussin, etc. Donc c'était, oui, tout était possible.
Mais ces changements d'école, vous les perceviez comment alors? Plutôt comme un handicap, hein, ou plutôt comme une bénédiction?
Bon, maintenant, avec le recul, je vois que c'est une bénédiction. Mais quand même... Il faut savoir que quand moi j'ai déménagé comme ça, personne ne faisait ça à l'époque. Donc j'étais une sorte de pionnière et j'étais tout le temps l'étrangère. J'étais tout le temps la fille qui venait d'ailleurs avec un nom étrange, qui ne parlait pas la langue et qui était perçue comme une personne qui n'appartenait pas au lieu, enfin à l'école, au groupe d'amis. Ce qui m'a permis... avec le temps, de devenir comme une espèce de caméléon, parce que ça me permettait de... Je comprends très vite les codes de chaque endroit, chaque lieu, chaque peut-être groupe d'élèves ou groupe de social, même encore aujourd'hui. Et j'ai une adaptabilité... très rapide.
Instinctive.
Et instinctive, oui, très grande. Quand on change d'école et de langue, comme je l'ai fait en très peu d'années, finalement, il fallait que je trouve une autre forme d'expression. Et je dois dire que tout d'un coup, le dessin, la poterie, tout ce qui pouvait me permettre de m'exprimer autrement que par la parole, était... plus accessible pour moi, c'était plus facile. Et donc, je pense que naturellement, j'ai développé tous ces travaux d'atelier, tous ces travaux de dessin, plus facilement que tout ce qui était langage.
India Madhavi, architecte et designer, répondait aux questions de Sophie Bobert. C'était Rue des Écoles, une émission préparée avec la complicité de Marie Dalquier, réalisée par Somanina. Prise de son, Jean Frédérics. Production, Martin Kénéen. Ça se réécoute, ça se partage, ça s'offre peut-être en rubané sur franceculture.fr. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction de France Culture.